Merci, François. S'il y a des membres plus jeunes parmi nous, et ils aimeraient bien avoir une feuille pour les aider à suivre le message, alors sur les tables de café, il y a des feuilles et quelques crayons et quelques stylos pour aider les petits et même les plus grands à suivre ce que nous allons voir ce matin. Mais d'abord, une question. Le verre, est-il à moitié vide ou plutôt à moitié plein? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt optimiste qui voit le verre moitié plein ou plutôt quelqu'un pessimiste qui voit le verre à moitié vide? Et quand vous regardez notre église ici à la Garenne-Colombes, est-ce que vous êtes plutôt encouragé ou plutôt découragé? Et quand vous regardez l'église au niveau national, est-ce que vous êtes plutôt encouragé ou plutôt découragé? Cette semaine, l'évangéliste américain Billy Graham, il est décédé. Alors songez-vous aux conséquences de ces campagnes d'évangélisation. Des milliers de gens qui étaient présents, des centaines de conversions. Hélas, les choses d'aujourd'hui ne sont plus comme avant, dit-on. Alors comment réagir quand nous sommes découragés? Découragés en nous souvenant du passé. Découragés. Et alors tenter de jeter l'éponge. La semaine dernière, nous avons abordé la question du chantier du temple silencieux à l'époque du prophète Agé. Vous vous souvenez peut-être qu'en 587 avant Jésus-Christ, à cause de leur infidélité, le peuple d'Israël a été déportés en exil, mais conformément aux promesses de Dieu, ils sont revenus. Le peuple est revenu à Jérusalem en 538. Mais après l'enthousiasme initial pour la reconstruction, le chantier est tombé dans l'oubli. Appelé l'enthousiasme initial, le chantier du temple était tombé dans l'oubli. Puis Dieu a parlé, comme nous avons vu la semaine dernière. Dieu a parlé, il a mis son doigt sur la priorité erronée du peuple, n'est-ce pas? Le peuple laissait le temple de Dieu en ruine, tout en embellissant leur propre maison. Mais le peuple a entendu Dieu, a craint Dieu. Le peuple a repris les travaux. Mais cette semaine, nous reprenons notre lecture dans Agé, presque un mois après la reprise des travaux. Mais malheureusement, l'enthousiasme est à nouveau en chute libre. Alors je vous invite, s'il vous plaît, à prendre votre Bible et merci de chercher Agé, chapitre 2. Alors, c'est à la page 605. 605, j'ai toujours du mal à trouver ces petits prophètes. Mais Agé, c'est 605. Et je vais lire chapitre 2 à partir du premier verset. La page 605, Agé 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce qui dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Et les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, maître de l'univers. Je vais prier avant d'aller plus loin. Notre bon Père Céleste, nous te demandons de nous encourager ce matin, de nous donner une perspective juste de ton Église et de ce que tu es en train de faire. Que nous soyons des gens qui voient le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide. Merci de nous fortifier par ta parole ce matin. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen. À notre premier titre de ce matin, découragé en se souvenant du passé, découragé en se souvenant du passé. Donc, les bétonnières tournent depuis 4 semaines. Les bruits de marteau résonnent depuis 4 semaines. Les scies en train de scier. Mais malheureusement, il n'y a plus la passion du commencement. L'humeur des ouvriers est en chute libre. Et Dieu parle à Agé. Le verset 2 parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Et donc Agé, il chausse ses sandales et il part sur la place principal de la ville. Et il se lève pour transmettre le message, ou plutôt une question que Dieu pose. Première question. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Ben, il y a quelques mains vieilles qui se lèvent. Deuxième question, et comment le voyez-vous maintenant? Comment est-ce que vous voyez le temple maintenant? Et là, les vieilles mains tombent. Les mêmes personnes âgées haussent les épaules. Ils baissent la tête. Il regarde le sol avec embarras. Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Et personne ne dit le contraire. Ces personnes se souviennent de l'ancien temple de Salomon. Sa grande taille, ses décorations somptueuses, c'était un temple qui donnait envie d'adorer Dieu. C'était un temple dont Israël pouvait être fier. Et même ceux qui étaient nés après la déportation, ils avaient entendu parler de ce temple. Mais maintenant, en voyant les fondations, en voyant les briques, ben écoute, les travaux ne sont pas très prometteurs. Et donc, ils sont découragés en se souvenant du passé. Et à la machine à café, les discussions des maçons sont devenues de plus en plus audibles. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Nous n'aurons jamais assez de ressources pour faire un beau temple. Alors, pourquoi se donner tant de mal? Même si on arrive à finir, ce temple n'aura rien à voir avec le temple de Babylone, des Perses. Et les ouvriers commencent à baisser les bras. Le peuple commence à songer à jeter l'éponge. Ils sont découragés en se souvenant du passé. Et vous, ce matin ici à l'église, est-ce que vous êtes découragés en vous souvenant du passé? Est-ce que vous êtes découragés tout court? Est-ce que vous songez à jeter l'éponge? Vous souvenez-vous des campagnes de Billy Graham? Alors, nos efforts d'évangélisation ne paraissent-ils pas assez minables, assez dérisoires à côté? Peut-être vous êtes allé visiter des grandes églises au Brésil, aux États-Unis. Mais une fois de retour ici à la Garenne-Colombe, ben franchement, est-ce que c'est un peu décevant? Ou peut-être c'est le temps de fou que vous vous donnez pour préparer votre cours pour l'école de dimanche. Après avoir bien préparé pendant la semaine, le dimanche matin, il n'y a que deux enfants qui viennent et ils passent plus de temps à pleurer pour leur mère et partir aux toilettes. Ou sinon, ça fait des années que vous priez pour un ami. Vous discutez pendant longtemps avec un collègue de l'Évangile. Et vous avez l'impression que rien ne change. Alors songez-vous à jeter l'éponge. Ok, vous n'allez pas renier la foi. Mais pourquoi vous donner tant de mal? Comment réagir au découragement? Comment réagir au découragement? Il y a une chanson qui dit qu'il faut chercher le héros qui est à l'intérieur. Que les ressources existeraient à l'intérieur de chacun. Et il faut les puiser, il faut les trouver. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réagir au découragement? Ce n'est pas la réponse de Dieu. Parce qu'ici, nous voyons persévérant, car Dieu est présent. C'est notre deuxième titre, persévérant, car Dieu est présent. Le verset 4 du chapitre 2. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Le premier impératif, c'est difficile à rater, n'est-ce pas, parce que ça revient trois fois. Fortifie-toi, sois fort, courage. Deuxième impératif, travaillez. Allez, au boulot. Courage, c'est parti. Pourquoi? Parce que je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Donc voici la première réponse que Dieu donne face au découragement. Dieu est présent. Il est présent. Et Dieu veut que le projet aboutisse. Et donc la réponse n'est pas de puiser des forces à l'intérieur de soi. Non, non, non. La réponse, c'est de chercher les ressources à l'extérieur. De chercher ses forces chez celui qui est le maître de l'univers. Persévérons, car Dieu est présent. Après l'exil, le jugement que le peuple du Juda a bien mérité, le peuple aurait pu se demander, est-ce que Dieu sera toujours avec nous? Mais le verset 5 est catégorique. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël, Dieu qui a guidé le peuple avec la colonne de feu et de nuée, Dieu qui a fait trembler le mont Sinaï par sa présence, Dieu reste fidèle à son alliance, il reste présent avec son peuple. Et donc, même si le peuple est découragé en se souvenant du passé, le Dieu du passé n'a pas changé. Donc, il y a raison d'être encouragé, non pas découragé en se souvenant du passé. Il y a raison de persévérer, car Dieu est présent. Et c'est vrai que la présence de certaines personnes peut nous encourager. Peut-être c'est quand vous étiez petit, quand vous faisiez du sport, et il y avait votre père sur la ligne de touche qui vous encourageait. Ou peut-être c'est plutôt la présence d'un bon ami, d'une bonne amie, quand vous allez au médecin. Et crois de mieux d'avoir quelqu'un qui excelle et qui porte le projet que vous entreprenez. C'est magnifique. Si le chef du bureau des études d'IKEA venait chez vous pour monter l'armoire à 1000 pièces. Alors ici, nous pouvons persévérer car Dieu est présent avec nous. Et nous avons vu la même promesse dans le Nouveau Testament la semaine dernière. Avant de quitter ses disciples, Jésus a commandé ses disciples de faire des disciples de toutes les nations. Et il finit avec la promesse, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Matthieu 28. Et donc dans son projet, dans le projet de Jésus de faire des disciples de toutes les nations, si nous sommes découragés dans l'évangélisation ou l'édification, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est présent avec nous et le projet de faire des disciples, alors c'était son projet dès le départ. Et donc, il est présent avec nous le dimanche matin. Il est présent avec vous, avec les petits à l'école de dimanche. Il est présent quand vous discutez avec votre collègue. Il est présent et il nous écoute quand nous prions, quand nous persévérons dans la prière. Et donc, persévérons, car Dieu est présent. Mais, est-ce que ça répond au problème de la déception? C'est très bien que Dieu soit avec les ouvriers, mais est-ce que ça répond à la déception devant la taille un peu minable de ce nouveau temple? Comment réagir aux apparences minables? Heureusement, Dieu continue. Persévérons, car Dieu est présent, mais aussi parce que Dieu prépare un avenir glorieux. Okay, c'est notre troisième titre pour ce matin. Dieu prépare un avenir glorieux. Et tel est un résumé très court des versets 6 à 9. Dieu prépare un avenir glorieux et il invite les ouvriers à faire partie de cet avenir glorieux. Et c'est cette perspective que les ouvriers doivent garder en tête. Dieu a des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus vastes que ce qu'ils voient. Parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Donc d'abord, au verset 6, Dieu dit « Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. » Dieu prévoit un événement de taille cosmique. Il fera trembler le ciel et la terre, la mer et le sec, et même toutes les nations. Et Hébreux 12, qui cite ces versets, explique qu'il s'agit du jugement de Dieu à la fin des temps. Ensuite, que va-t-il se passer? Par le verset 7, les trésors de toutes les nations afflueront. Donc, le manque de ressources ne posera aucun problème. Dieu lui-même garantit le nécessaire pour faire un temple magnifique, super, super joli. Puis, de plus, Dieu lui-même remplira de gloire ce temple. Et donc, ce temple aura une gloire archi-supérieure à l'ancien temple, celle de Salomon. Et puis, à la fin, au verset 9, Dieu promet la paix. Il y aura de la paix dans ce dernier temple. Et c'est un programme de construction qui se passe tout ce qu'un contremaître aurait pu imaginer. Et c'est un programme qui motive, n'est-ce pas? C'est un programme de construction qui donne envie à cette vision plus large, plus vaste, plus glorieuse. Ça motive. Et cette perspective de ce qui est en devenir, ça donne envie. Si vous voulez, c'est la différence entre le forgeron qui forge ses boulons, il ne sait pas pourquoi, mais il forge ses boulons. Et le forgeron qui forge ses boulons pour la tour Eiffel. Et même, de son atelier, il peut regarder par la fenêtre à la tour Eiffel en forgeant ses boulons. Pour un ouvrier découragé, croit de mieux de savoir que son travail contribue à un projet plus grand, plus vaste. Quoi de mieux de savoir que le manque de ressources ne va pas empêcher le projet. Quoi de mieux de savoir qu'on ne travaille pas seul, mais que Dieu lui-même s'engage en tant que chef de projet, architecte en chef. Et donc, nous pouvons persévérer, car Dieu est présent et il prépare un avenir glorieux. Alors, nous avons déjà un accomplissement, une vision de ce temple glorieux en Jésus-Christ. Sur le bulletin des chants, nous avons le verset de l'évangile de Jean. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, venu du Père, excusez-moi. Parce que ce temple n'est pas accompli au final en briques de pierre, mais en chair et en os. Dieu le Père a fait le nécessaire pour bâtir ce temple plus glorieux en Jésus-Christ. Jésus est le temple plus glorieux. Et il montre la gloire parce qu'il est Dieu lui-même parmi nous. Et de plus, les gens de toutes les nations affluent à Christ. Et ceux qui se tournent vers Christ trouvent la paix, comme Dieu a promis à Agé. Ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, ils trouvent la paix. La paix avec Dieu, mais aussi la paix les uns avec les autres. Et ensuite, ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, ils forment aussi ce nouveau temple plus glorieux, fait non pas de briques, de pierre, mais de chair et des os. Et c'est la vision plus large, plus grande de l'Église à laquelle nous devons tenir. Alors j'ai envie de lire deux textes du Nouveau Testament pour nous aider. Et donc merci de prendre votre Bible et de chercher Éphésiens 2. C'est à la page 767. 767. Juste pour voir comment ce temple plus glorieux et accompli à la fois en Jésus et dans l'Église, et puis à la fin des temps. Donc d'abord, Éphésiens 2, à la page 767, je vais lire à partir du verset 17. Il a venu, c'est-à-dire Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc voici le temple plus grand, plus glorieux, avec Jésus comme pierre angulaire. Et les chrétiens qui s'ajoutent pour former un nouveau temple plus grand qui est l'habitation de Dieu en esprit. Et voici la vision plus grande de l'esprit, de l'Église, à laquelle nous devons tenir, surtout quand nous sommes découragés par les apparences. Dieu est en train de construire ici son saint temple. Mais nous avons besoin aussi de garder un œil sur l'avenir glorieux. Et donc, je vous invite à tourner à l'Apocalypse, à la page 821. C'est l'Apocalypse, le chapitre 21, à la page 821. Et je vais lire à partir du verset 22, à l'Apocalypse 21. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors voici le temple plus glorieux que j'ai voyé de loin. Est-ce que vous voyez la gloire plus grande parce que Dieu y est? Est-ce que vous voyez les nations qui viennent, qui apportent leur trésor? Est-ce que vous voyez la paix parce qu'il n'y a plus de mal à présent? Voici le temple plus glorieux. À la fin des temps, grâce à l'œuvre de l'agneau, Jésus, Dieu est présent. Les nations viennent grâce à l'agneau. Et il y a la paix totale parce qu'il n'y a plus de péché. Et voici l'avenir glorieux que Dieu prépare. La construction du temple de Zorobabel de l'époque d'Agé était un petit pas vers cet avenir glorieux. Et chaque fois que nous sommes en train de faire des disciples de toutes les nations, chaque fois que nous sommes en train de saisir la priorité de Dieu pour l'édification et l'évangélisation, nous sommes en train de prendre des petits pas vers cet avenir glorieux. Et c'est cet avenir glorieux que le peuple de Dieu doit garder en tête face aux apparences décevantes, parce que les apparences peuvent être trompeuses. Donc ne soyons pas découragés. Persévérons dans la foi en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès à cet avenir glorieux. Et c'est par lui que nous pouvons travailler pour préparer cet avenir glorieux. Car comment est-ce que les uns et les autres seront présents ce jour-là? Comment est-ce que les nations vont influer si ce n'est pas par l'évangélisation et l'édification dont nous avons parlé la semaine dernière? Peut-être que nous ne voyons pas les résultats immédiats, mais c'est par la parole et la prière, l'évangélisation et l'édification que Dieu est en train de préparer cet avenir glorieux, ce nouveau temple plus glorieux. Alors persévérons, sachant que c'est Dieu qui est en train de préparer son avenir glorieux. Et voici donc la perspective du peuple de Dieu. Persévérons, car Dieu est présent et il prépare un avenir glorieux. Je vais prier. Prions. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette parole que tu as adressée par le prophète Agé. Et effectivement, si nous sommes plutôt découragés en ce moment, merci de nous encourager par ta présence, aussi par ce que tu as fait en Jésus-Christ, mais aussi par cette vision de l'avenir glorieux que tu prépares. Et nous te prions, s'il te plaît, de nous assurer quand nous sommes en train de prier ou enseigner à l'école de dimanche ou parler avec un collègue de toi, que nous sachions que tu es avec nous et que tu es en train d'être à l'œuvre pour préparer cet avenir glorieux. Et c'est au nom de ton Fils que nous prions. Amen.